France Inter.
C'est la bande originale, mais oui. Avec Leïla Kamouboutadi, bonjour, bonjour. Avec Isabelle Moitié, Mélodie Fontaine, Emma Beaujean, Olvela, Tanguy Passureau, Daniel Morin, et nos invités Camille Raza et Mélanie Loulet.
Bravo, France Inter.
Leïla Kaddour et Nagui. Wow.
Bonjour Camille, bonjour Mélanie, bienvenue.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Bonjour. Nous allons évoquer la série Les Disparus de la Gare, qui se trouve sur la plateforme Disney+, qui va se trouver, pardon, à partir du 8 octobre prochain, sur cette plateforme, qui est une histoire vraie, qui est... Alors, c'est une fiction inspirée de faits réels, et toutes les précautions d'usage sont prises évidemment dès le début, mais c'est surtout l'histoire d'un entêtement entre une capitaine de police et une maman, qui ne veulent rien lâcher. Petit tour de table sur des moments dans votre vie où vous n'avez rien lâché.
Oh. C'est dur.
Et peut-être obtenu, je ne sais pas.
Lisa qui ouvre toujours le bal.
C'est toujours dur. Est-ce que j'ai rien lâché?
Ah, si tu veux, moi je peux immédiatement te dire. Et puis ça me permettra de rendre un hommage à un monsieur qui n'est plus malheureusement de ce monde, qui est Bernard Chérez, qui a travaillé à Inter pendant des années. Je lui disais que je voulais travailler à Inter. Je crois qu'il a été directeur des programmes, directeur de la programmation, de la musique. Enfin, il avait un gros poste ici. Chaque fois, il me disait, mais ouais, t'as raison, il faut qu'on trouve le moyen. Et chaque fois, il revenait me voir trois mois après. Écoute, j'en ai parlé à la direction, ça va pas être possible. Et c'est le premier auquel j'ai pensé quand j'ai réussi à signer et à venir à Inter. Donc, ne rien lâcher.
Voilà. Ben, moi, je pense que c'est de monter sur scène.
Malgré des embûches, malgré des freins. Ouais,
parce que vu mon profil, c'est pas une évidence que je parle seule devant plein de gens.
Non, le profil, ça va, c'est de face
c'est compliqué.
Oh là là.
Mais c'est le dos qui. C'est le dos qui fait une carrière.
J'ai vu le film, ouais.
Donc t'as rien lâché, malgré.
Malgré mes propres freins, je pense.
Ok, d'accord. Mélodie.
Moi, ma rééducation du Périnée, clairement.
T'as rien lâché. Ah ouais.
Bah oui. 40 séances.
Il pas 40
séances. Et pour mes 40 ans, mon père m'a réoffert des séances.
J'ai eu peur.
Non. sur un nouveau fauteuil. Et
on m'appelle la guillotine.
70 séances. Donc j'ai rien lâché. Et je peux vous le dire aujourd'hui, je tousse et il ne se passe rien.
Yeah yeah. Merci, Mélodie.
La vidéo sur le site de l'émission, bien sûr.
T'avais eu des octuplés ou quoi?
Emma Beaujean, est-ce qu'il y a eu un entêtement, on va dire?
Ouais, quand t'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à une fois, j'ai pécho une meuf. Et vraiment, au début, c'était pas bien parti. Et j'ai rien lâché.
Et tu l'as eu?
Et oui, enfin, je veux dire, avec le consentement dans le casque. Mais c'est juste qu'elle pensait qu'elle était
police,
pas amoureuse de moi.
La police est intervenue.
En fait, je sais pas comment dire, mais quand j'ai rencontré, j'étais sûre qu'elle pouvait tomber amoureuse de moi. Je sais pas comment dire, mais je sais pas ce que je veux dire.
Emma est un mec toxique.
C'est ça. Comment tomber amoureuse quand quelqu'un est lourd?
Eh ben, il faut lui poser la question. Mais elle est vraiment trouvée une love.
C'est ça.
Et après, on a été ensemble et c'était super. Voilà.
Ah là là.
C'est vrai que j'ai été très très lourd avec ma femme au début. Voilà. Enfin, ma mère encore.
Elle m'en a parlé.
Leïla.
Tous les jours. Non, moi j'ai toujours eu tout crème, quoi.
Quand j'ai. T'es têtu.
Oui, têtu. Non, j'ai poursuivi un monsieur qui travaillait à France 3 Île-de-France qui s'appelait Olivier Montel, qui était à la tête de France 3 Île-de-France. Quand je commençais, il fallait... il faut des cachets de journalistes pour pouvoir avoir la carte de presse. Si t'as pas la carte de presse, tu peux pas avoir de cachet de journaliste. Bon, c'était un truc... Et donc, je lui ai envoyé mon CV tous les jours par mail, et je l'appelais pour dire, on peut se voir. Et un jour, il m'a dit...
Harcèlement.
Un jour, il m'a dit, écoutez, je peux pas, j'ai pas le temps. Et je lui ai dit, écoute, vous mangez bien? Il me dit,
vous mangez bien. Il y a bien un jour, vous mangez.
Oui, vous mangez bien. Il me dit, oui. Bah, je viens juste, comme ça, je vous donne mon... Et je suis venue, et en fait, quelques temps après, j'ai trouvé un petit... Il m'a donné des petites piges à faire à droite à gauche.
Merci Olivier
Montels.
Qui mange bien.
Qui mange.
Moi, j'avais sorti un album le 28 février 2020, ce qui veut dire 2-3 jours avant le début des emmerdes du Covid. Et donc, la tournée commençait le 12 mars, donc c'était merveilleux. Et donc, le producteur m'a dit, tant pis, tu feras un autre album, une autre tournée. Et donc, non, je me suis battu pour dire, non, je veux faire vivre cette chanson, cette tournée. Donc, je me suis démerdé, j'ai fait un mini-album, relancé celui-là pour refaire la tournée.
T'as tenu 3 ans, en fait.
J'ai tenu 2-3 ans.
Ouais, c'est ça qui avait tenu, on en serait
balade, c'est ça qu'on vous...
Daniel.
Vraiment. Moi, j'ai insisté, mais non, à chaque fois, c'est négatif. Mon oncle n'a jamais voulu ouvrir la porte de la cave. Il m'a laissé enfermer.
Ok. Camille, est-ce que vous avez déjà été têtue, obstinée, mais pas forcément dans le boulot, hein. Ça peut être aussi dans des histoires d'amour ou...
Oui, bah, complètement. Notamment pour un rôle d'une autre série là, qui sort bientôt, où on ne voulait pas me voir pour ce rôle-là.
Pas Emily in Paris.
Non, voilà. Là, non, là, j'avais pas insisté.
Ils sont venus vous chercher.
Voilà, plutôt okay. Ça. Enfin, oui, on a fait 6 tours quand même, mais oui, ouais. Voilà. Non, pour
6 tours
série,
de casting.
Oui, 6 tours.
Au carrousel, au Tuileries, sur le carrousel de la roue, la grande roue au Tuileries.
Ça marche comme c'était ça, génial. Comédienne. Oh, on fait du manège.
Tu vois, tu fais juste 6 tours sur toi-même. C'est bien.
Bah, la queue de Mickey, puis ça y est.
Non, et ils voulaient pas me voir pour ce rôle-là. Et en fait, je leur ai fait un petit mytho. Je leur ai dit, bah, pas de soucis, viens pour l'autre rôle. Et en fait, je suis venue pour le rôle que je voulais passer.
Malin.
Et je l'ai eu.
Malin. Okay. Ouais, Mélanie Douté, est-ce que vous avez déjà été obstinée, entêtée, est-ce que vous avez insisté?
Oui, je suis de nature assez têtue, mais j'ai pas l'inspi là. Mais
Non, mais ce qui est marrant, c'est que tous les reproches qu'on peut nous faire quand on est gamin en disant ouais. arrête, c'est l'entêtement, dur, hein. Ouais, t'es stadoula, et ainsi de suite, t'es obstinée, c'est pas bien, et ainsi de suite, deviennent peut-être des qualités après dans la profession.
Je
dans
pense
le métier,
que c'est ou... important ouais, bah, de, oui. pas, de pas tout de suite de dire allez, je subis. Non, peut-être qu'on
peut
changer.
Il n'y a pas eu un moment
où
vous n'avez rien lâché.
Si, mais est-ce que c'est vraiment à mon avantage?
Laissez-nous juger.
Est-ce que parfois il ne faut pas renoncer?
Voilà, c'est ça.
Des choses. Je suis d'accord.
Peut-être que l'histoire dira ensuite si vous avez raison ou tort.
Oui.
Nous allons parler de ces disparus de la gare, mais pour l'instant, Camille, Mélanie, voici votre fan numéro 1.
Je suis fan de Mélanie Douté. Je fais mon coming out. Vous êtes mon actrice préférée. Car quand vous venez, on me donne des responsabilités. Le rédac chef me dit oh, tu nous fais douter.
Non.
Yes, je suis fan de Camille Razat. J'espère que vous allez refaire tout plein de films. Azap, vous êtes ma comédienne préférée en deux peut-être. Car le rédac chef m'a dit non mais Ol, il faut que t'arrêtes. Et vous êtes là pour les disparus de la gare. Des enlèvements, des meurtres et viole une sombre histoire. Cette série pose un vrai problème de société.
C'était.
Les chroniqueurs qui doivent faire rire sur ces sujets. Oh, peu importe le sujet finalement, ce qui est important, c'est qu'on reçoive des gens qu'on aime vraiment. Dites-moi, aujourd'hui qui vient, promis je saurai ce que je fais, enfin j'essaierai tout du moins, pour l'instant j'ai pas trop d'idées, je demande à Daniel Dalmorin, il s'en fout, il se rappelle plus, je croise Nagui qui me dit ce matin, on va parler des disparus, alors je l'ai dans le baba, ah non là ça va pas, c'est super triste comme sujet, toutes mes blagues ça va être caca, attends me dit Leïla, je crois qu'on va se régaler, il y aura Mélanie Douté avec Camille Raza Douté, Raza Douté. Chantez chez vous. Je vais vous entendre. Yes, wow. C'est une folie ce matin ou pas? Ça fait hyper pro. Yes, attention. Je suis fan de mon son de guitare vraiment géant. Je trouve qu'il est aussi cool que la bande son d'avant. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Bravo. Bravo. Ça, il m'a scotché.
Et puis tu sautes comme un petit loup.
Avec le fil.
On dirait Winnie l'ourson. Oui, c'est trop mignon.
Mais non, un guépard, je veux dire.
Comme un guépard.
Je sais pas s'il faut le féliciter ou la balle. Waouh. Alors il est en tournée partout, c'est bien mérité. Nouveau single.
Bah, moi, il est pas là quand il est en tournée partout.
Formidable. Et attention, opération Bretzel, c'est le 18 octobre à la Fouillouse.
À la Fouillouse.
C'est à côté de Saint-Étienne, Mélanie.
Ben, il va falloir remplir.
J'ai rempli la feuille.
À mon avis, il y en a trois, c'est rempli.
C'est ça, ok. Camille, avant de continuer cette émission, dois-je dire Raza ou Razat? Je ne voudrais pas écorcher votre nom.
C'est gentil, il y a un conflit dans ma famille, au sein de ma famille, mais moi, c'est Razat.
Ok, exact. Très bien.
Voilà, okay. Je préfère.
Très
merci.
Bien. Allons-y. Camille Doutette, vous êtes... Mélanie et Camille, donc vous êtes à l'affiche de cette série Histoire Vraie qui s'est déroulée sur pratiquement une dizaine d'années. Des jeunes filles sont kidnappées, violées, assassinées, éviscérées, torturées. Ouais. Enfin, c'est monstrueux. La série, on peut le préciser, suggère beaucoup de choses, ne va pas jusqu'à les montrer, c'est-à-dire c'est pas une série gore, mais en tout cas on comprend, même dans le regard de ceux qui subissent les autopsies ou qui y assistent en tout cas, que c'est l'horreur, l'inimaginable, en se disant d'ailleurs c'est tellement monstrueux que ça ne peut être qu'un médecin, qu'un chirurgien, que quelqu'un qui a l'habitude du scalpel, ce sont les premières pistes.
Qu'un homme quoi déjà ça peut être qu'un homme.
Oui. Ben, les viols, oui.
Non mais je veux dire les viols, tu sais, tu peux violer avec autre chose qu'un organe génital.
Ouais, enfin c'est souvent les hommes qui sont les prédateurs dans ces situations-là. Il y a eu combien de personnes victimes dans cette série de meurtres et de viols? 6.
Il y en a 6 et on cherche encore donc Tatiana Andujar, mais qui a priori ne serait pas forcément reliée directement à cette affaire, mais dont on cherche toujours.
Vous parlez d'elle, vous jouez Mélanie le rôle de sa maman dans la série, mais vous parlez d'elle parce que vous l'avez rencontrée, la maman de Tatiana,
Marie-Josée Andujar, qui est venue sur le plateau, on a échangé, on s'est rencontrés, elle était très présente.
Ça doit être déchirant d'interpréter le rôle d'une personne qui se sent totalement faible par rapport à l'histoire qu'elle subit, totalement perdue par les enquêtes policières, par l'absence de solutions.
Ce qui est déchirant, c'est ce qui est d'inhumain, c'est ce qu'elle vit. Donc,
ne pas savoir.
De ne pas savoir. Ça fait 30 ans le 24 septembre que sa fille a disparu. Et elle est passée en cold case il y a un an.
Et ça veut dire quoi, passer en cold case?
Ben, en fait, les affaires non résolues passent dans un cabinet d'avocats qui est censé résoudre, qui est spécialisé dans les cold cases.
Donc c'est une bonne nouvelle de dire on va pouvoir réouvrir le dossier maintenant.
Exactement.
Okay.
Donc pour elle est rentrée au cold case en plein avec beaucoup d'espoir. Mais voilà, Marie-Josée, son quotidien, elle continue à tracter encore, elle continue de chercher sa fille.
Vous avez, Camille, vous, une espèce de connexion avec Tatiana, cette jeune fille disparue, parce que vous vous êtes presque identifiée à elle en disant « Tatiana, ça pourrait être moi ».
Oui, tout à fait. Bah, je pense que Flore Robin, donc mon personnage, en tant que femme, elle se sent forcément, elle a un œil différent que les autres policiers qui sont majoritairement des hommes, et aussi parce que dans son histoire personnelle au sein de la série, on comprend qu'il y a eu quelque chose de similaire aussi, enfin en tout cas de traumatique. Et effectivement, elle refait les trajets, elle essaye de comprendre vraiment physiquement aussi ce qui a pu se passer. Et effectivement, ça la touche directement.
Vous vous êtes posé des questions aussi d'avoir croisé ou pas la vie de Tatiana dans les écoles, dans les lieux où vous alliez. Vous posez, parce que vous êtes du Sud également, ce genre de questions qu'on se pose aussi en disant ça pourrait être une copine, j'ai peut-être pris le train un jour avec elle.
Ça aurait pu, à part que...
Il y a un écart d'âge.
Y a un écart d'âge qui fait que c'est pas possible dans ce cas-là. Mais évidemment, quand on apprend des disparitions de cet ordre-là, on se dit toujours, ça aurait pu être là maintenant,
c'est ça
aurait pu
être
moi.
On a tous été traumatisés par des petites affichettes avec des visages de petites filles. Je sais pas, Estelle Mouzin, tout ça. On a grandi avec des visages d'enfants qui ont disparu.
Ou même plus tard, plus tard. Portrait robot de Georges. Une du Parisien, ça nous a toutes traumatisées.
Oui, Estelle, c'est sur les briques de lait aussi.
Oui, c'est vrai,
t'as raison. Ce qui est marquant aussi, c'est le fait qu'on mette leur visage vieilli plus ou moins par ordinateur.
Oui, c'est
l'imaginaire des parents se dit, mais est-ce qu'il ressemble vraiment à ça? Est-ce qu'elle se ressemble à cette...
Ah ça, je savais pas.
Ils font des simulations pour voir à quoi elle pourrait ressembler.
D'accord. D'accord, ok, j'ignorais totalement. Cette série, c'est aussi l'histoire du combat de ces femmes, cet entêtement, et on suit vraiment vos deux histoires en parallèle, celle de l'inspectrice de police qui est accueillie dans un milieu de mal-alpha, qui est vraiment non seulement pas accueillie, mais limite soi-disant bizutée, voire agressée au sein même du commissariat. Extrêmement, extrêmement violent, même si elle sait se défendre, faire des coups de bras, se battre. Et...
Bah, c'est son métier quand même, donc oui, elle sait se défendre. Mais malgré tout, la violence est là parce que.
C'est un milieu de bonhomme.
C'est un milieu de bonhomme, et puis je pense que, encore moins dans les années 90, les femmes étaient nécessairement accueillies au sein de la police.
Oui, puis en plus, elle arrive comme étant la brillante étudiante, celle qui sort de l'école.
Oui, elle a un petit côté énervant,
Mademoiselle,
effectivement.
Mademoiselle, je sais tout.
Au départ, elle a un petit côté énervant. Ben, je sors d'école, donc je veux bien faire, donc je suis la bonne élève, et je pense que ça les agace d'autant plus.
Ouais, et puis justement, dans le spectre des personnages, celui de Patrick Timsit, lui est à l'inverse, pratiquement en bout de course, brisé par la vie, brisé par des expériences. Il va avoir un rôle important dans presque cette espèce de bonne conscience, en tout cas d'envoyer des messages en disant « lâche rien » justement.
Oui, complètement, c'est son mentor, c'est-à-dire que c'est un peu le seul qui l'accueille vraiment à bras ouverts, on va dire, et il la guide, il lui explique comment faire, il est très pédagogue avec elle, et très sympathique.
Paternant, hein.
Complètement.
Ce qui est fort dans le spectre du jeu que vous jouez, Mélanie Louté, c'est que vous passez par tous les états. Oui. C'est à la fois, il y a le désarroi, la tristesse la plus profonde, il n'y a rien de plus horrible pour un papa ou une maman de perdre un enfant, et puis il y a des moments de sourire, de plaisir, de replonger dans les souvenirs, de revoir des vidéos qui font plaisir. C'est-à-dire que c'est à la fois une torture de voir des images d'un anniversaire et du bonheur passé, et à la fois c'est à la fois une torture et à la fois un plaisir.
Bah, c'était important avec Virginie Sauveur, la réalisatrice brillante de cette série,
qui a fait les 6 épisodes.
Bravo à elle. C'était important de montrer que la vie continue malgré tout, malgré l'insurmontable. En fait.
Avec les enfants.
Elle a 3 autres fils, donc le quotidien continue d'être là, donc faut préparer à manger, faut fêter les anniversaires, faut continuer à sourire le matin quand ton enfant se réveille, enfin voilà, mais faut continuer, mais c'est de l'amour.
Oui, mais deux, par exemple, dans le couple, c'est elle qui veut continuer, le père a un tout petit peu baissé les bras.
Je pense qu'on peut pas juger comment on traverse l'horreur. Chacun fait comme
ça. Je constate simplement, en tout cas dans la série, on est focalisé sur la maman. Peut-être que dans des moments où il est seul dans sa voiture, le père a d'autres pensées, mais l'axe là est l'axe de la maman, pour avoir ce parallèle entre ces deux femmes que vous incarnez toutes les deux.
Je crois que lui, le rôle qui est joué par Stéphane Rideau, en fait, le père, il pouvait plus être accompagné par cette disparition au quotidien. C'était trop lourd pour lui. Oui. Il a fallu qu'il s'en détache.
Est-ce que ça provoque des bouleversements dans la famille? L'enfant, le fils, qui est obligé de partir, de revenir de temps en temps, mais qui ne peut plus être au contact de cette famille avec cette pièce manquante, en fait. C'est bouleversant de voir ça. Et vous êtes super là-dedans, Mélanie Douté. Vraiment, on prend avec vous toute la peine qu'on pourrait imaginer être celle de cette maman, même si je pense qu'elle est supérieure à ce qu'on pourrait imaginer. Bravo.
Inspiré d'une histoire vraie, portée donc par Mélanie Douté, Camille Razat. Il y a également Hugo Becker, Patrick Timsit, Ludovic Bertillon, Kevin Azaïs, Yannick Chouara, Déborah Graal, Yam Zeitoun, Jules Frankel, Faisal Benhamed, Sarah Cheyenne Santoni, Charles Pelletier, Quentin Vandeviver et Julie Morel, le tout.
Et Théo Scholby.
Pardon.
Pas de soucis.
Je l'avais pas sous les yeux.
Quand même la poisse, on a cité 150. Ouais,
D'autant que c'est le rôle principal.
Non, mais c'est un acteur fétiche de Virginie Sauveur. Il est dans quasiment toutes ses fictions.
Tu as raison.
Je suis avec toi.
Tu as raison.
Compliqué.
Voilà, je vous laisse finir cette émission. Très, très bien. Voici Lisa Delwattier. Parce que vous, Lisa, vous n'auriez pas ressorti ce Cold Case et fait cette série comme ça.
Non. Même équipe d'Old Love sur ce coup-ci. Et seulement sur ce coup-ci. Hein. On ne saute pas de la même manière, déjà. S'il y a bien une chose dans la vie que je déteste plus que les histoires de féminicide,
c'est devoir faire des blagues dessus. Donc voilà. Est-ce que pour une fois dans cette émission, on peut pas recevoir les acteurs de Babar? Hein, des blagues sur un éléphant, ça pourrait quand même être une enquête, si vous y êtes absolument, mais une enquête sur des éléphants disparus, il y en a. Voilà, je propose. Il va de soi que dans le procès, Babar serait du côté de la défense.
Oh, joli.
Oh, j'avais pas envie, d'accord.
Oh, joli. Ouais,
c'est gentil, je pensais
c'est triste,
que...
Triste, ouais.
Ah, bon. J'y étais presque.
C'est vrai.
Non, mais allons-y, allons-y. Donc, avec les disparus de la gare, on l'a dit, on a donc une série basée sur des faits réels, ce qui, soyons honnêtes, donne souvent les séries les plus passionnantes.
Mm-mm.
Même s'il faut peut-être faire gaffe de pas trop en sortir des si réussis, parce que moi, j'ai envie de passer à la télé, donc je vais peut-être buter quelqu'un. Hein, c'est pour ça l'espoir de... Désolée, mais j'ai fait un an de médecine juste parce que j'ai regardé Grey's Anatomy.
Ah ouais,
donc, on voit un côté captivant de plus et il y en a un de la bande ici qui va finir tranché en sashimi. Hein.
Ah.
Mais non, rassurez-vous, j'essaie de manger moins de thon.
Oh. Oh.
Soulagé, Daniel.
Non, Daniel, tu risques rien. Donc,
merci, chérie.
Et dans ce côté passionnant, Camille Raza, donc vous jouez l'enquêtrice sur une affaire de femmes disparues près d'une gare. Parce que même si le suspense c'est captivant, cette histoire c'est avant tout une histoire de violence faite aux femmes.
Ouais.
Une de plus dans la collection. Les hommes, vous n'avez pas envie de vous mettre au timbre, plutôt? Ça en restera en vie, puis le courrier arrivera à temps, en même temps, c'est pas mal. Après, il faut leur laisser, c'est une collection variée. Hein. Des hommes tuent des femmes à la gare, des hommes tuent des femmes à la plage, des hommes tuent des femmes en forêt, des hommes tuent des femmes à l'hôtel, des hommes tuent des femmes chez elles, des hommes tuent des femmes à la ferme. C'est comme Martine, mais à la fin, des hommes tuent Martine. Et dans le numéro des hommes tuent des femmes à la gare, ce sont des jeunes filles, dont une n'a pas été retrouvée, et Mani Doutet, vous interprétez donc la maman de cette jeune fille. Je peux pas imaginer ce que ça fait de perdre un enfant. Ça dit, je peux pas imaginer non plus ce que vous avez d'avoir un enfant. J'ai pas beaucoup d'imagination, quoi. C'est ça que j'essaie de dire.
Ouais.
Je sais pas si je suis une référence. Ça dit, quand même, je vous imagine tous nus. Donc il y a quand même un peu de rêverie dans ce cerveau qui est le mien. D'ailleurs, Mélodie, t'aurais pu t'épiler. Hein. Non, mais ça me fatigue, en fait, cette longue tradition de buter des femmes. Je sais même plus quoi en dire. Sur le site du collectif féministe Nous Toutes, et je rappelle que féministe, c'est pas un gros mot. Hein. Un gros mot, par exemple, c'est connard ou enfoiré ou grosse merde. Mais bon, on est là pour parler des victimes, pas des hommes qui tuent des femmes. Grâce à Nous Toutes, donc, on peut voir le décompte des féminicides. Et en date du 25 septembre, on était à 115 en France. Et le site rend hommage à chacune, parce que derrière les chiffres, il y a des vraies personnes qu'il ne faut pas oublier. La dernière déclarée, tout récemment, c'est par exemple Marie Magdalène, 46 ans, qui a été poignardée par son ex-conjoint. Le couple venait de se séparer et l'homme avait déjà été condamné pour violence conjugale envers une ancienne compagne. Ben tiens. Voilà, donc pensez à Marie Magdalène et à Nesrine et à Manon et à Banassa et à toutes les autres. Et Mélanie, Camille, merci d'utiliser la fiction pour rappeler l'horreur que c'est des hommes qui tuent des femmes. Puis les mecs, sérieux, enfin, juste passer au timbre, quoi.
Merci.
Et vous pouvez voir le spectacle de Lisa Del Moitier Remontada sur francetv.fr.
Tous les mecs sont pas des violeurs, mais souvent tous les violeurs sont des mecs. Oui, on est totalement d'accord. Et ce qui fait peur, c'est que toute cette histoire est vraie, mais ce qui est rassurant, et c'est le bon côté que j'ai vu dans cette série, c'est la manière dont tous les personnages sont concernés. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas un cas de plus. Il n'y a pas de banalisation de l'information. Il y a vraiment ce côté. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on trouve, il faut qu'on fasse quelque chose.
L'entêtement,
on va passer pour des cons, les gars. Quand on voit tous ces mecs réunis à un moment donné en disant on lâche rien, on y va, il faut qu'on trouve cette fois. Et c'est ça que je trouve formidable dans cette série, c'est que ça ne banalise pas les enquêtes.
Oui, c'est vrai, mais je pense que aussi ça tient beaucoup à l'écriture. On remercie jamais assez les scénaristes, je trouve. Et là, entre autres, Gaëlle Bellan, c'est une femme très engagée. Et effectivement, on filme pas des fonctions, mais on filme des humains qui sont face à l'horreur.
Mais qui sont concernés.
Et qui sont concernés et qui veulent évidemment élucider cette affaire.
Malgré leur maladresse aussi.
Exactement.
C'est ce que je trouve, ce qui est très juste dans la façon dont c'est traité, dont c'est écrit, c'est que les flics humains se plantent, passent à côté d'informations hyper importantes. Mais
S'en veulent après.
Mais la culpabilité, elle doit être terrible.
Voilà, et se disent, on va pas spoiler la série, mais il y en a surtout un qui se rend compte qu'il est passé à 2 mm de la clé, et qu'il aurait pu sauver des vies, et qu'il a été con, et il s'en veut au point où il se demande même s'il doit continuer, s'il doit pas rendre. On serait aux États-Unis, ça serait l'insigne et le colt posé sur la table en disant trop d'honneur, je suis obligé de quitter. Bon, lui, il pense juste à déménager, c'est que ça doit être dans l'histoire. Et dans la réalité, en disant je ne peux pas rester dans la même zone, dans le même commissariat, j'ai honte du regard que j'essuie régulièrement. Il y a quand même un moment clé aussi dans cette série, sans spoiler, ce sont les avancées scientifiques. Ça va être quelque chose de déterminant.
Absolument, bah, il faut se remettre dans le contexte de l'époque.
Je me tais parce que je ne sais pas ce qu'on peut dire ou
non,
pas dire.
Non, mais moi aussi, c'est un peu... bon, mais c'est... non, non, mais c'est vrai qu'il faut resituer le contexte. Donc, dans les années 90, ça arrive tardivement en France, ce système d'ADN. Il n'y a pas tous les fichiers informatiques, évidemment, qu'on connaît aujourd'hui, le FNAEG, etc., le Canonge, ça arrive, tout ça. Ce sont des fichiers, en fait, pour comparer les gens qui ont déjà été condamnés à l'époque. On a encore un dossier papier. Donc si les mecs, ils égarent un papier, ça tient à ça, en
fait.
C'est fini. Et c'est ça qui est intéressant qu'on voit dans la série, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'ils font des erreurs, parce que aussi, les moyens techniques de l'époque sont vraiment un peu branlants.
Même si une enveloppe Kraft a été défaite, ouverte, ça peut ruiner l'enquête en disant bah, c'est plus valable,
exactement,
parce que quelqu'un a pu la toucher, les scellés ont été retirés, donc ça n'a plus aucune valeur juridique. Et là, on tombe presque dans une espèce de « Ah ben, il manque une pièce au dossier, donc on va libérer le gars qui est là ». Et même si tout le monde sait qu'il est coupable, il manque juste une pièce où on n'a pas respecté une
procédure.
Les procédures sont tellement longues et les services entre eux ont du mal à communiquer, parce qu'il faut bien imaginer que bah il y a pas le téléphone portable, il y a pas tous ces communications qui nous semblent évidentes aujourd'hui et très rapides. Tout ça n'existe pas à l'époque, donc les procédures mettent un temps assez long.
Et à l'époque, il y a pas si longtemps, c'est ça qui est fou.
Il y a 25 ans.
C'est le début des années 2000, quoi. C'est ça qui est totalement dingue. Et la preuve, c'est qu'il y a encore des cold cases, il y a encore des enquêtes qui restent. Mais ça veut dire que dans cette affaire, il y a encore des objets sous scellés, il y a encore des personnes suspectées, il y a encore ce propriétaire du bar qui est sous le regard de la justice, encore.
Et il est sorti de prison, lui.
Ouais, lui, il est sorti.
Non, mais donc...
On verra ce que le cold case apporte.
Oui, oui, tout à fait. Mais Marie-Josée Andujar
a une intime conviction.
A une intime conviction.
Bien sûr.
Par-dessus les temps, soudain
la transition.
Passé les oies sauvages.
Bah, la transition, quand vous verrez la série, vous comprenez pourquoi.
Ouais. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.
C'est la
Méditerranée, Céline. Un vol de perdreau par-dessus les champs montait dans les nuages.
Et puis il y a toute l'esthétique des années 80.
Ah ouais, la DA de la série.
J'adore. Pour le coup, que ce soit les cabines téléphoniques, les voitures, les fringues, la lumière, tout est vraiment plongé dans l'époque.
Moi, j'ai rarement vu un commissariat parce que je ne connaissais pas le décor ou à peine le décor du commissariat.
Ah oui, parce que vous tournez toutes vos scènes chez vous, intérieur.
Ouais.
Mais pas au commissariat.
Limite
robe de chambre.
Mais c'est vrai que le commissariat, il est vraiment le décor. J'ai rarement vu ça. Enfin, il y a du quotidien. C'est pas du tout cliché, il y a de la vie, il y a un côté enfermement aussi. Enfin, je trouve que c'est brillant, la déco.
La série est réussie, vous l'avez compris, à partir du 8, elle sera sur Disney+. Thibaut Solano, qui a justement écrit le livre Les Disparus, 15 ans d'enquête, et qui a été consultant pour la série, sera avec nous tout à l'heure pour répondre à nos questions. Alors lui, il a vraiment, j'imagine, mené sa propre enquête en parallèle de son observation de journaliste ou d'auteur. Mais d'abord, voici Mélodie Fontaine.
Ah oui ! Alors, il y a quelques années, je me suis reproduite. J'ai décidé de perpétuer cette belle espèce qui nous prouve chaque jour qu'un dieu fait que c'était une très, 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 très bonne idée. Ma fille est super. C'est le croisement de la petite de Little Miss Sunshine et le prince des ténèbres, adopté par Netanyahou. Malgré tout, elle est sympa. Enfin, surtout avec les autres. En ce moment, c'est un vrai délire. Elle me hurle dessus en permanence. Ça s'appelle le Terrible Six. Alors, je le connaissais pas, celui-là. Je connaissais le Terrible Two, les deux ans, là où ta gosse, c'est petit Daniel un jour sur deux. Je connaissais le Terrible Three, la période où tu découvres que tu peux avoir envie de quitter le domicile familial. Après, on m'a dit, tu verras, c'est rien côté du Terrible 4 et le 5. Alors, j'en ai parlé à ma mère du Terrible 6. Elle m'a dit, mais si, c'est l'année où tu as appris à survivre seule en forêt. Donc, mon maître Grinch, mon Nagui à couette, comme j'aime à l'appeler, a été invité à un goûter d'anniversaire le week-end dernier. Et là, il a fallu trouver un cadeau. Alors, je m'en sortais déjà pas avec les cagnottes en ligne pour mes potes. Et il faut fois en plus que je racle pour les potes de ma fille. Ouais. Tu m'étonnes qu'en vieillissant, tu réduis naturellement ton cercle de copains. C'est pas une question d'affinité, c'est une question de budget. La vie est belle, t'es heureuse et t'as une notif WhatsApp qui te fout une balayette. Coucou les copains, c'est Sophie. Vous vous doutez bien de pourquoi j'ai créé ce groupe. Et oui, encore une cagnotte. Quelle relou cette Sophie. Mais c'est pour ça que vous l'aimez? Non, c'est pour sa piscine. Voilà, c'est l'anniversaire à Magali. Et comme vous le saviez, Magali a toujours rêvé d'aller au Vietnam. Donc faites-lui plaisir, on lui fait plaisir. Non, mais moi aussi, j'ai toujours rêvé d'aller au Vietnam. Mais je pourrais jamais y aller à cause de toi et Magali. Parce que je rôde du buncha. Alors, oui, je vais te le faire, ton virement. Mais je peux te dire que je vais certainement pas cocher cacher le montant. 50 boules, j'ai bien envie que tout le monde le sache. Pardon, Oldelaf a mis 200 balles. C'est lui le père ou quoi? Comment il peut toucher autant de droits? C'est toujours la même phrase. Mordu. Bref, le cadeau pour la pote de ma fille, afin de l'inclure dans le processus d'offrande, parce que c'est important d'apprendre à ton enfant de prendre plaisir dans le fait d'offrir sans rien attendre en retour, on va ensemble acheter le jouet, sans oublier au préalable de lui donner énormément de sucre, histoire de vivre un putain d'enfer. Non chérie, je vais pas t'acheter un Playmobil, c'est pas ton anniversaire. Et puis la maison Belle Époque Playmobil, elle coûte une burne, c'est un investissement. Faut un prêt immobilier. Non, pas la pâte à modeler non plus, tu mélanges les couleurs et après c'est tout mélangé dans la tête de maman. Et en plus, papa, il fait que des pénis avec. Faut que j'en parle un psy. Oh, t'inquiète pas, mon amour, tu sauras bien assez tôt ce que c'est qu'un psy. Bah. Donc, qu'est-ce qu'elle aime, ta copine? Les Barbies? Et les Jennies? T'es sûr qu'elle n'aime pas les Jennies? C'est comme Barbie, mais sans que ça oblige maman à vendre un organe. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, ok, chérie. Barbie voyage. Oh, la chance, elle a même un masque de sommeil. Barbie ne doit pas avoir d'enfant pour dormir et voyager autant. En même temps, pas facile de faire un gosse pour Barbie avec son vagin en plastique. Remarque, c'est pas comme si tonton Fabien avait pas essayé quand on était petit.
Oh non.
Il a arrêté quand il s'est coincé un accessoire dans l'urètre. On a dû l'opérer pour étirer les bottines. À un autre endroit, le médecin a aussi retrouvé un Ken et deux Tamagotchi. Je me disais bien que mon avion Barbie avait une drôle d'odeur parfois. Une fois que j'ai raconté cette belle histoire à ma fille, on s'est dirigé vers la caisse. Et comme dans tous les grands magasins qui essaient de vous la mettre jusqu'au dernier moment, avant d'arriver à la caisse, tu as ce que j'appelle le couloir de la mort. Une zone avec plein de petites tentations moins chères, des petits jouets qui rendent les enfants zinzin. En plus, ils donnent envie. Sans doute d'ailleurs parce qu'ils ont été faits par des enfants. Mais j'ai su être forte. Je ne lui ai rien acheté à part un tube à bulles de la pâte à fée et un porte-clés Olaf qui fait nier une carotte. Oui, j'ai un vrai souci d'autorité, je vous le confirme. Il faut que j'en parle à mon petit dès qu'il rentre du Vietnam.
Bravo. Bravo Mélodie Fontaine.
Mélodie Fontaine sur scène les samedis et les vendredis aussi au point virgule à 20h le 8 octobre à Rennes, le 17 octobre à Garges-lès-Gonesse pour son fabuleux spectacle Où elles sont mes bottines.
Elle est nourrie également la bande originale de la série Les Disparus de la Gare. Ça c'est la musique originale. Puis sinon après il y a justement tout ce qui nous replonge dans ces années. Je comprends pourquoi Mélanie a toujours refusé de venir. N'oubliez pas les paroles, je viens de réaliser. Il y a aussi les Cranberries font partie de la BO. Ça a vraiment marqué une époque.
Ah ouais.
Thibaut Solano, donc auteur du livre Les Disparus, 15 ans d'enquête, sera avec nous en quelques instants. La musique dans vos vies. On va évoquer l'année 2010 avec vous, Mélanie Douté. Vous écoutiez. Sly and the Family Stone. Vous allez souvent piocher dans les années 70, hein, je crois.
Ouais,
Sly and the Family
Stone. Ouais,
c'est ça.
Ouais, aime bien.
ça me réconforte.
Pourquoi ce titre-là, en particulier, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Bah, je peux l'écouter souvent. Et il me donne
pour danser, pour chanter, pour sourire.
Ouais, ouais.
C'est joli. Que se passe-t-il en 2010, Leïla, pour Mélanie ?
On vous retrouve au théâtre avec comme partenaire de jeu Jacques Weber. J'imagine qu'avec un Jacques Weber qui a beaucoup d'expérience, qui tant physiquement prend beaucoup de place aussi. c'est vrai. Je veux dire, il y a quand même un contraste un peu fort. Justement, comment l'interaction s'est-elle passée avec un homme de théâtre un peu assumé et installé.
Tout à l'heure, on parlait du rapport des personnages entre Patrick, Timsit et toi, ouais. Camille, et il y avait ce rapport-là un peu. Ouais, c'était un peu paternant. C'est une pièce d'Ibsen absolument incroyable qui s'appelle Solness le constructeur.
Qui n'est pas très connue.
Qui n'est pas très connue, mais qui est une pièce incroyable, qui est la pièce préférée d'Al Pacino d'ailleurs. Ah. Et Pat.
Salut Al.
Et c'est vrai que, ouais, il y avait un rapport très paternant. C'était un bonheur d'être avec lui sur scène. Il y a vraiment des soirs où je l'admirais, quoi, oui. Sur le plateau.
Camille Razade, vous écoutiez en 2010.
Je fais force parce que je ne peux pas.
C'est toujours drôle de chanter dans un tube en plastique. Qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour vous ?
La sourdité ?
Non, mais c'est pas parce que. On pourrait prendre un micro pour chanter ? Non, je vais prendre un PVC.
Et ça marche, hein ?
Regarde, c'est quoi ? Je connais pas, c'est
bleu.
Quoi ?
Bleu.
C'est isolé bleu.
Ah, ouais. Je connais pas. Ouais.
Bah, c'est pas très très connu. Bah,
tu m'étonnes. C'est.
C'est une époque, bon, toujours, mais où j'écoutais beaucoup de techno, d'électro, je sortais pas mal. Et j'aimais bien cette musique.
Pour danser les yeux fermés ?
Pour danser, par exemple, les yeux fermés, et puis aussi de l'électro française, en sortant un peu d'headbanger, même si j'adore. Mmh. Je trouvais ça cool aussi. Ouais. De mettre un peu les Frenchies en électro.
Et okay. Dans ces années-là, vous êtes à Paris, vous souhaitez au départ devenir reporter de guerre, vous vous inscrivez au Gobelin pour ça, pour intégrer la partie photographie, mais ça se passe
en
pas...
En double licence en journalisme, ouais.
Ouais, et ça se passe pas comme prévu.
Non, pas vraiment. Bah, j'ai eu le concours d'entrée et c'est vrai que j'avais 18 ans, moi je viens de Toulouse, donc je venais d'arriver à Paris et j'avais envie
pour
de...
Pour
je sais pas si je voulais devenir mannequin, mais en tout cas, oui, j'allais continuer le mannequinat à côté parce que ça me permettait...
Mannequin de guerre.
Mais parfois, le mannequinat, c'est un peu la guerre. Donc, en fait, j'avais envie de faire autre chose avant sans faire une année sabbatique parce que j'aime pas rien faire. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'aider de toute façon dans le journalisme? J'avais une diction affreuse. J'avais du mal à parler devant des gens. Je me suis dit, tiens, le théâtre, ça peut être une belle façon en fait, de joindre les deux tout en, entre guillemets, en m'amusant et en découvrant des classiques de la littérature. Ce que j'aime bien lire.
Mélanie Douté, en 2015, vous écoutiez. Si, super. Histoire de femme, quoi. Soleil d'hiver de Niagara. Je le dis à chaque fois qu'on passe du Niagara, s'ils décident de faire un seul, ne serait-ce qu'un seul concert à Bercy, ils peuvent remplir le Stade de France. Je pense que tout le monde serait comme des oufs d'aller réécouter Niagara.
C'est bien triste de l'entendre. Ouais.
Mais est-ce que parfois il vaut mieux pas rester un très bon souvenir ?
Mais alors elle est forte, hein.
Bah oui, mais bon. Tu vois, on est tous très désireux de la voir, et puis finalement...
T'as cassé l'ambiance.
Bah non, je sais pas, je pose la question.
Mais qu'est-ce que tu sais que ça serait pas bien ?
Bah je sais pas.
Après, je crois
justement,
que ça se passe pas très bien entre les deux. Hein, c'est...
Ah, entre ouais. Daniel et Muriel, c'est tendu.
Ouais, ouais c'est ça, ça ouais.
C'est sûr. Ah. Enfin, entre les Rolling Stones, ça l'a été aussi, ça les empêche pas d'être sur scène.
Hein. Oasis aussi.
Oasis.
Mais là, ouais. On est en 2015-2016, Mélanie. On vous retrouve dans La main du mal, où vous incarnez une avocate.
Oui.
Ouais. Sur fond de, je connais pas bien l'histoire. Joey Starr est un meurtrier, c'est ça?
Oui. Je fais l'avocate de Joey Starr.
Dans la fiction.
Oui, bien sûr.
Et c'était un super tournage.
D'accord. Voilà. Ok.
On passe à toujours en 2015 avec vous,
on
Camille.
On a tous des bons souvenirs.
Camille, vous écoutiez. Elle va nous faire découvrir plein de trucs aujourd'hui.
Ouais.
C'est ça qui est bien d'inviter une enfant de temps en temps.
Oh. Alors c'est pour ça qu'on peut chanter à différentes vitesses.
Qui Qui est Bonnie Banane?
Bonnie Banane, c'est une artiste française. Okay. Je voulais mettre un peu la French Touch à l'honneur, qui est une créature sur scène absolument formidable parce que c'est vraiment une performeuse incroyable.
Visuelle.
Et,
ouais.
Et elle est aussi actrice par ailleurs. Et j'aime beaucoup cette fille.
Que se passe-t-il dans la vie de Camille, Leïla?
Il se passe Disparu, la série signée
Charlotte Brandstorm.
Absolument, avec Alix Poisson, réalisé par Charlotte Brandstorm. Pardon, je pensais à François, à De l'Estrade en fait.
Ah oui, coup, oui, d'accord.
J'associe.
Oui, je comprends.
Oui, pourquoi.
Je comprends pourquoi.
Voilà, voilà. Vous incarnez le rôle de la jeune fille qui disparaît en fait.
Ouais.
Avec une enquête aussi, qui nous plonge dans un environnement aussi un peu angoissant.
Série avec FX de Maison.
Avec François-Xavier de Maison
et PEF.
Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario?
C'était aussi la rencontre avec Charlotte. J'avais passé plusieurs tours d'essai. Moi, c'était mon premier projet, si je me trompe pas. J'aimais bien en fait cette relation. En fait, je joue la disparue, mais je précise qu'elle existe un peu en flashback, sinon ce serait
elle disparaît vite.
Ce serait compliqué.
Générique début. Au revoir.
Voilà, c'est ça.
C'est déjà bien.
Et j'aimais beaucoup Alix Poisson.
Oui.
Et quand on m'a dit que ce serait ma maman, j'étais très très contente. Je trouve que c'est vraiment une actrice formidable.
Est-ce que l'inverse peut arriver?
Comment c'était, ça? Que tu sois la maman
vous,
de Alix?
Non, on vous propose une série, puis on vous dit il y a telle personne qui joue, et vous dites ah, j'ai pas envie.
Oui, complètement.
Pas. Ça peut arriver aussi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ou après, c'est pas, je sais pas, il y a pas beaucoup de scènes à faire ensemble. Enfin, est-ce qu'on refuse un projet parce qu'on se dit vraiment j'ai pas envie de jouer avec quelqu'un?
Oui. Apparemment, oui.
C'est vrai. Même si c'est une semaine de tournage et que c'est.
N'insiste pas. Non.
Je cherche à savoir vraiment, ouais.
Puis même par tes camarades, tu peux entendre des vraies saloperies sur tes partenaires futurs et te dire bon bah je peux éviter.
Ouais.
2018, Mélanie Douté, vous écoutiez.
Ah ouais, j'adore.
Je suis beaucoup plus la BO de Mélanie hein, que.
J'imagine.
Mais...
J'imagine.
Oh, ça va.
Avec Camille, moi je.
Mais faut découvrir, Nagui.
Mais oui.
Faut découvrir. Hein.
Ouais. Police avec Sting qui revient à l'affiche. The Last Chip sera son nouveau spectacle à la scène musicale. Il va rester plusieurs semaines à Paris en spectacle.
Et Mélanie Douté avec Michel Faux.
Oui,
dans Douce amère de Jean Poiret, qui vous vaut une nomination au Molière de la comédienne dans un spectacle privé.
Eh ben.
Je suis un.
Mmh. Oui.
On
ne
refuse rien.
Je suis nommé, hop là.
Michel Faux aussi, on a parlé de Jacques Weber dans le théâtre. Michel Faux aussi, dans le monde du théâtre, il représente quelque chose d'un petit peu fou, un peu fantasque aussi d'une certaine façon.
Bah, là aussi, la scénographie, les costumes, le décor était ouf.
Oui, puis le texte de Poiret est assez fou, parce que c'est quand même l'histoire d'une femme qui se libère de l'emprise de son mari. Et puis Michel, c'est ma diva chérie, je l'adore. Quoi. Il est incroyable sur scène. Lui aussi, j'étais totalement admirative de son travail. Certains soirs, j'étais en totale admiration.
Camille, vous écoutiez-vous Get Your, c'est Flatbush Zombie. Et c'est une rencontre, Leïla, avec qui?
Avec plusieurs personnes, notamment Clint Eastwood.
Wow.
Ouais. Pour le 15h17 pour Paris, ce film qui retrace l'épisode héroïque de ces voyageurs américains dans ce train. Une rencontre avec Clint Eastwood, une collaboration avec Clint Eastwood, ça donne quoi?
Bon, c'est son plus mauvais film, hein, clairement, c'est dommage, mais lui était...
Bah, vous savez parler aux gens, vous.
Mais non, mais
c'est honnête.
C'est honnête.
Oui. Personne dirait autour de cette table que c'est un chef-d'œuvre non plus.
Non, enfin, voilà. Soyons...
Non, mais j'imagine que l'aura de Clint Eastwood...
Par contre, lui est impressionnant d'abord de gentillesse, de simplicité, et en fait, il m'a fait rire parce que je pense qu'il m'aimait bien et qu'il s'ennuyait dans ce train, donc il me dit « Mets toi à côté de moi, ma petite », mais en tout bien, tout odeur, pas du tout bizarre. Et il me dit « Bon, tu veux rester quelques jours de plus avec nous ?» Je dis « Bah oui, volontiers, moi j'étais je regardais, j'écoutais tout, c'était mon premier tournage en anglais en plus. » Il m'a dit « Bah, je te rajoute 2-3 jours, tu reviendras. » Et c'est ce qui s'est passé.
Ah, j'adore.
Et il était vraiment très très gentil.
En 2019, Mélanie Douté, vous écoutiez... Et là, c'est un virage dans la vie de Mélanie.
Mélanie Douté, réalisatrice, pour Avanti, votre premier court-métrage qui a été fait, préparé, diffusé dans le cadre des Talents Adami, donc à Cannes.
Oui.
c'est quand même pas mal ça.
Monter les marches pour sa première réal.
Mais est-ce que ça vous a donné goût
prétention.
Ça vous a donné goût à la réalisation?
totalement. Et puis c'était je crois que c'était un très intime avec toutes les maladresses des premières fois, mais j'ai eu un immense plaisir à le faire quoi.
Voilà. Dans cette même année 2019, Camille, vous Mac Miller et la révélation.
Emily in Paris, et voilà, là tout d'un coup, c'est l'événement qui fait l'effet d'une bombe, je pense, à l'international, partout. Je crois qu'il n'y a pas un pays où on ne vous connaît pas. Vous peut-être. Le constatez en voyageant ou pas?
Un petit peu.
Elle est modeste.
Emily in Paris, donc on le rappelle, hein, un Paris propre, ensoleillé, où il y a toujours de la place à la terrasse, ouais. Des cafés.
Et qui cette année a lieu à Rome.
C'est ça. Pour vous donner une idée, la première saison d'Emily in Paris, quand elle est sortie sur Netflix en plein confinement, donc les gens n'avaient que ça à faire, dans le mois qui a suivi sa diffusion, il y avait 58 millions de personnes qui l'avaient regardée. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu du phénomène.
J'ai une question, pourquoi on vous appelle Katoche?
Katoche, c'est parce que je suis fumeuse et que Catherine Deneuve fume beaucoup de clopes et c'est Lucas Bravo, donc mon pote qui joue Gabriel, tout le temps il me dit allez Katoche, on va fumer une clope et il me tape toutes mes clopes.
Allez, on fait un clin d'œil à Lucas Bravo qui m'a filé cette info évidemment, histoire j'adore. De vous surprendre et on l'embrasse. Thibaut Solano nous a rejoint,
bonjour.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, auteur du livre donc Les Disparus, 15 ans d'enquête, vous êtes consultant pour cette série. Quel a été votre rôle précis quand on dit consultant, c'est-à-dire vous êtes le référent pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux?
Alors, j'étais pas le seul, mais oui, sur la base de mon livre qui est paru en 2016, notamment sur les coulisses de l'enquête policière. C'est surtout là-dessus que j'ai été sollicité.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette affaire?
En fait, je me suis intéressé à l'affaire en 2012 de manière un peu détournée. Je travaillais sur le thème des légendes urbaines. Et l'origine des légendes urbaines. Et il y en avait une qui circulait beaucoup dans les années 2000 dans le milieu étudiant, qui prétendait qu'un maniaque sexuel se déguisait en vieille dame pour attaquer les jeunes femmes dans le quartier de la gare de telle ou telle ville. Et en fait, des sociologues m'avaient expliqué que cette vieille légende urbaine avait repris de la vigueur à cause de l'affaire du tueur de la gare de Perpignan. Mmh. Il y avait des points communs, les jeunes femmes, le maniaque sexuel de la gare. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert l'affaire et que je me suis plongé dedans à l'époque, en 2012, c'était un cold case.
On a tout de suite su que c'était un tueur en série quand il y avait des points communs dans cette disparition, dans ces viols?
À partir de la troisième victime, Marie-Hélène Gonzalez, en juin 1998, qui a été retrouvée sauvagement mutilée. Mmh. C'est là que l'hypothèse d'un tueur en série a vraiment émergé, d'autant qu'on était à une époque où la figure du tueur en série s'imposait un peu en France, à la fois par l'actualité, Guy Georges, Francis Holm, et aussi par la fiction. Seven était sorti 2 ans avant, Le silence des agneaux en 92.
Mmh. Il y avait un climat de terreur réellement dans la région, c'est-à-dire que tout le monde avait peur d'aller autour de cette gare, d'être une jeune fille seule dans la rue, enfin, ça se ressentait au quotidien?
Oui, tout à fait, le quartier de la gare était déserté, surtout la nuit, les jeunes filles évitaient, les parents disaient à leurs jeunes filles de ne pas sortir interdisé, à la gare. Ouais. Même les flics disaient ça à leurs enfants. Et puis il y avait un élément qui faisait encore plus peur, c'est qu'on pensait que le tueur, à ce moment-là, était peut-être un médecin, un chirurgien, à cause des mutilations infligées aux victimes. Et donc on disait le tueur est peut-être médecin le jour, assassin la nuit, et une sorte de caméléon.
Ça a même troublé, c'est ce qu'on voit dans la série, ça a même troublé l'enquête, c'est-à-dire qu'on ne cherchait que des gens dans le monde médical. Dès l'instant où quelqu'un travaillait plus ou moins autour de la médecine, il était suspect.
C'est ça, parce qu'on pensait que les mutilations étaient faites de manière très précise, ce qui a été démenti par la suite, mais les premiers légistes ont fait cette confidence-là aux policiers dans les couloirs de l'Institut médico-légal de dire « je crois que c'est un médecin ».
On l'a dit tout à l'heure, les avancées scientifiques ont énormément joué.
Oui, alors ça a mis du temps, puisque le rebondissement est intervenu 14 ans après, 17 ans même, après les faits, grâce à une trace ADN, une petite trace ADN sur la chaussure d'une des victimes.
Quelle est votre intime conviction sur le dénouement, entre guillemets, attendu et la découverte de ce qui s'est passé pour Tatiana?
Alors effectivement, Tatiana, c'est la dernière des disparues de la gare, la première en fait chronologiquement, mais la seule dont le cas est irrésolu. L'enquête est toujours en cours au Paul Cold Case de Nanterre, qui est spécialisé dans les crimes non élucidés. J'ai pas vraiment de conviction, mais je pense au scénario du pire pour les enquêteurs, c'est-à-dire que Tatiana avait l'habitude de faire du stop, elle en avait l'intention. Ce soir-là, elle rentrait de Toulouse, elle était à la gare de Perpignan. Et c'est le pire scénario parce que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de lien entre la victime, Tatiana, et son tueur. Quand le tueur ne connaissait pas la victime avant, c'est le pire pour les enquêteurs. Comment remonter le fil, en fait, oui, surtout 30 ans après, sachant qu'il n'y a pas de corps, et pour le coup, pas d'ADN.
Merci, on a envie de relire aussi ce livre. Et puis, alors, ce qui est fort, c'est que même si on connaît le dénouement de cette affaire, la série reste avec une tension et puis surtout une imbrication dans l'esprit, la mentalité. On est dans une dimension humaine de quelque chose qui peut nous dépasser. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de la série en l'ayant vue.
Oui, j'ai aimé. En plus, j'ai une clause, je dois dire du bien. Mais c'est, en
fait,
j'ai
vraiment salaud.
J'ai vraiment aimé.
J'étais à deux doigts de dire du bien de votre livre. Elle est disparue 15 ans.
J'ai vraiment aimé parce qu'il y a quelque chose justement qui est connecté au livre aussi. C'est que moi, ce que je retiens de cette affaire, au-delà du fait que c'est une affaire de temps en série saisissante, c'est les victimes. Ce sont les victimes. Ce sont quatre jeunes femmes. On va citer les noms. Tatiana Andujar, Mokhtaria Shaib, Marilène Gonzalez et Fatima Hidraou, qui avaient pour point commun de vouloir s'émanciper. Elles étaient issues d'un milieu plutôt modeste, les parents ne roulaient pas sur l'or. Pour deux d'entre elles, il y avait même une pression religieuse, elles voulaient échapper à un mariage forcé. Et elles ont vraiment été fauchées au moment où elles s'apprêtaient à prendre leur envol. Mokhtaria Shaib, elle venait juste d'avoir son appartement, son studio à elle, et elle était toute fière, elle disait à ses copains et ses copines « Je suis libre, je suis libre ». Et c'est là qu'elle a été fauchée. Oui. Et pour moi, l'affaire des disparus de la gare, c'est d'abord l'affaire de ces victimes-là.
Merci Thibault Solano. Le livre donc est disparu 15 ans d'enquête aux éditions des Arènes. On continue de parler de cette série « Les disparus de la gare » sur Disney+, jusqu'à midi et demi, mais d'abord un hommage. Ella, Emma, Emma, bonjour.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux dentistes. On va parler bridge, des tartrages, des dentaires et pardon, excuse-moi, t'as une carie au fond de la bouche, non? Soit ça, soit t'as mangé un prout à la cantoche, mon vieux. Oh ça va, c'est bon, merde, marre-toi, c'est fini le bahut, t'es avec les grands ici maintenant, c'est une grande ville ici, détends-toi un peu, tiens, bois ça. C'est un cocktail de ma confection, c'est vodka, gin, suze, un trait de limonade, ça réveille, je l'ai appelé Clément Viktorovitch parce qu'après avoir bu ça, tu fais que parler, on comprend rien à ce que tu dis. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ou avec les copains, pétard. Bon, allez, on avance. Revenons à notre hommage. En effet, j'ai une pensée aujourd'hui pour tous ces gens qui ont voué leur vie entière à nettoyer nos dents. Imaginez la passion par laquelle il faut être habité pour faire ça. Je veux dire, pour en faire sa vie, ce métier, c'est certain, il faut vraiment aimer l'argent. Pardon, j'ai parlé en clavier automatique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un métier pas facile, vraiment, avec des études très compliquées pour y arriver, mais derrière, on est bien récompensé, pardon. On va pas se mentir, ça c'est chouette. Moi j'ai beaucoup de respect pour tous les métiers. Voilà. Parfois je me dis que je serais incapable d'en exercer la grande majorité, voire la totalité. Regarde, si c'est un métier physique, un poste, vraiment, sans moi. J'ai déjà dû faire une pause un jour parce que je faisais mes courses. Si c'est un métier intellectuel, sans moi, vraiment, j'ai toujours pas compris si Victor Hugo, il s'appelait Victor ou Hugo. Si c'est un métier d'organisation, sans moi, pareil. J'ai écrit cette chronique en venant dans le métro, d'accord ? Après que le rédacteur JB m'ait téléphoné il y a une heure, je pensais qu'on était dimanche. Bah, je suis désolée. Comment je pouvais savoir que j'étais allée au Coco Bongo à 5h un mercredi soir ? En ce qui concerne les études de chirurgie dentaire, moi, ce qui aurait vraiment péché, c'est que j'aurais été incapable de faire des études de chirurgie dentaire. Vraiment, tout apprendre, tout retenir. Les jeux à boire, les chansons paillardes, le harcèlement sexuel, boring. Et n'empêche qu'en vrai, dentiste, c'est une super bonne situation, mais c'est vrai. Mais juste, on est tellement fiers quand on a un bon dentiste. Qui n'a jamais dit « Ah, si tu veux, moi, j'ai un bon dentiste. » Cache Didier Deschamps avant 2018. Nagui, il a un très bon dentiste, c'est sûr. Ça se voit. D'ailleurs, Nagui, je sais que tu te fais blanchir les dents. Voilà, je t'ai entendu l'autre jour au téléphone. Vraiment, j'entendais, il parlait pas très fort, mais j'ai entendu sa conversation téléphonique. Il faisait que dire blanchiment. Et vous imaginez la pointure que ça doit être son dentiste parce qu'il l'appelait maître carrément. Si je te cite Nagui, c'est pas carrément, mais caïman. Excusez-moi, patron, je vous adore. Un jour, j'ai eu un très très bon dentiste, moi, enfin dans le sens où il était beau comme un dieu. Et alors vraiment, j'ai essayé de le draguer, c'est très compliqué vraiment de draguer un type qui est en train de te fraiser la molaire. Et ce n'est pas une métaphore sexuelle. Pardon, vous dites quoi? Baise-moi. Aucune transition. Non, évidemment, c'est un métier que je respecte énormément, même si je lui en veux un petit peu
pour être sincère, parce que pendant 2 ans, il m'a privée de ma meilleure amie. Et priorité au direct, aujourd'hui, là, juste après l'émission, je pars dans le sud pour la soutenance de thèse de cette même meilleure amie qui est officiellement dentiste. Alors je suis trop fière d'elle et surtout, je pense à tous les étudiants en médecine qui lâchent rien. Force et honneur, le reste, vous l'achèterez avec votre salaire de médecin. En tout cas, c'est à ma meilleure amie que je rends hommage aujourd'hui, docteur Coral. Merci de m'avoir
écouté. Yes, merci. Emma Beaujean.
Tous les vendredis à 21h au Théâtre des Mathurins.
La prochaine demi-heure consacrée donc aux disparus de la gare et on parlera également de quoi, Tanguy Passion.
Je vais vous parler de la petite ville de San Rafael en Californie. Tout allait bien, Nagui, c'était San Rafael, sauf qu'un écureuil fou a entrepris d'attaquer les habitants un par un. Et il est inarrêtable.
On en parle à présent. Zad El Moitié, Emma Beaujean, Mélodie Fontaine, Ol de la Havre, Tanguy Bassureau, oui. Daniel Morin,
Mélodie.
Et nos invités Camille Razad et Mélanie Dupont.
La chance.
La bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Les disparus de la gare, cette série vous propose des musiques que je n'arrive pas à envoyer. Je dis à la régie si elle veut ouvrir. Voilà, c'est gentil. Ça sera beaucoup mieux en musique. Et dans cette série, il y a à la fois cette BO originale, mais aussi... Parce qu'on se retrouve plongé justement dans ces fins des années 90, début des années 2000. Une enquête et une histoire qui a duré donc des années.
Stay7, celui qui a fait la musique.
Stay7, ouais. Ouais,
voilà. Très bien, qui a fait cette musique-là. Qui avait Flore. Pardon, j'aurais dû le dire.
Non, non, pas du tout, tous.
Et puis il y a une chanson française aussi. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu. Passer les oies sauvages. J'ai envie de dire une musique qui sert l'intrigue un tout petit peu. Il y a dans cette série, en effet, l'enquête, en effet, les drames, les mutileries, toutes les horreurs que l'on peut voir dans une enquête avec des meurtres de jeunes filles qui étaient en train de se libérer, en train de découvrir la vie et d'avoir le plaisir d'être enfin libre de toute contrainte familiale, professionnelle ou autre. Je suis pas sûr que vraiment l'assassin allait chercher, entre guillemets, ce genre de profil. Lui, ce qu'il regardait, c'était qui est seul la nuit près de la gare, qui est le quartier finalement dans lequel il habitait.
Puis elles se ressemblent, elles ont à peu près le même type.
J'avais dit
brune. Il y a quand même 2 filles à profil oriental, et les 2 autres sont quand même assez typées aussi. Enfin, je veux dire, c'est un morphotype qui semblait attirer le tueur.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on cherche dans tous les sens, les policiers ont cherché dans tous les sens, et finalement... L'assassin était là, quoi, sous leurs yeux. Ils l'ont même croisé.
Oui.
C'est ça qui est fou.
Ça qui est assez terrible dans cette enquête, mais parce que au départ ils avaient une certitude effectivement que c'était quelqu'un dans le milieu médical, et donc quand ils ont croisé vraiment le tueur.
Parce qu'elles étaient tuées, découpées avec un scalpel, enfin donc il y avait quelque chose de chirurgical.
Voilà,
un peu à la Dexter, où on s'est dit, ok, le gars il sait faire.
Voilà, ils ont été mis sur une mauvaise piste par un des médecins légistes.
Par l'analyse du médecin légiste, vraisemblablement, qui clairement s'est planté.
Et qui a dit, ça ne peut pas être autre
chose, quelqu'un d'autre médecin. Que quelqu'un qui est soit médecin, soit au moins dans le... ou même bouché avec précision, enfin voilà, quelqu'un qui a l'habitude de...
C'est une enquête, mais il y a une dimension humaine extrêmement féminine, c'est-à-dire qu'on a tout par le prisme des femmes, que ce soit la juge, que ce soit la capitaine que vous incarnez Camille, que ce soit la maman que vous incarnez Mélanie, c'est vraiment toute la sensibilité, mais au sens simplement humain, on va pas dire qui est plus sensible que l'autre, mais c'est vraiment le prisme des femmes qui est
mis
en avant.
Oui, c'est le prisme aussi, je trouve, des victimes. C'est-à-dire que justement, l'ère des Dexter et tout ça est un peu passé. Et ce qu'on met en avant là, ce qu'on raconte, c'est le quotidien de ces jeunes femmes avant qu'elles disparaissent. C'est toi, ton personnage Camille aussi, qui est victime de cette violence masculiniste dans le sein de là où tu travailles.
Oui.
Et je trouve que c'est ce qu'il y a d'assez nouveau dans cette série aussi, dans l'écriture.
Ouais, violence avec ce côté qui banalise, c'est-à-dire le gars qui est violent, qui d'un coup se rend compte derrière en disant « Ouais, ça va ». ça va, c'est un bisutage, ça va.
Pour te dire, pour te souhaiter la bienvenue.
Ouais.
Le bisu de la bienvenue.
Oui, mais c'est surtout
le pire, c'est, ouais, ouais. Ça va, c'est rien, même non, pas conscient.
C'est surtout qu'on explique à votre personnage que si elle commence à porter plainte maintenant, elle est retirée de l'enquête. C'est-à-dire que non seulement elle est la victime, mais en plus elle est punie et elle est retirée du dossier. Donc c'est aussi, on lui
c'est la double peine, ce qu'on appelle vraiment la double peine. Voilà. Effectivement, elle lui dit là, j'ai besoin de toi sur cette affaire. Or, si jamais tu veux vraiment porter plainte, entre guillemets, maintenant, non seulement on te retire l'affaire, et j'ai besoin de toi, mais en plus, tu ne feras plus jamais partie de ce groupe. Donc, effectivement, elle se retrouve un peu dans une impasse où elle se dit, bon, bah,
je vais me taire. Encore une fois.
Série
portée par Mélanie Douté, par Camille Razat, et également Hugo Becker, Patrick Timsit, Ludovic Bertillon, Kevin Azaïs, Yannick Chouara, Déborah Graal, Yam Zeytoun, Jules Frankel et Théo Chalbi.
Et Nicolas Cazalet aussi, qui est formidable.
On va pas y arriver.
Le tout.
Non, la 8e saison.
Créé par Gaël Bélan et réalisé par Virginie
Sauveur.
Voici Tanguy Passion.
Je sais pas si vous aimez la nature, moi si, mais domestiquée. Déjà chez Truffaut, quand quelqu'un a déplacé les bacs de géranium dans le rayon des pétunias, j'hyperventile. Je pense être quelqu'un qui a besoin de structure, donc la jungle, c'est pas pour moi. Rendez-vous en terre inconnue, je refuse. Ils me l'ont pas proposé, mais j'anticipe. En revanche, le jardin des Tuileries, ça j'aime. Les buissons sont taillés au centimètre près. Ça ressemble plus à une épilation au laser qu'à du jardinage. Je pense qu'à Paris, au service Espace Vert, ils ont pris des esthéticiennes. Il y a des bosquets, tu dis, c'est un maillot brésilien, quoi. Et hier, j'ai eu envie de nature, mais sauvage, parce que je suis très écolo. Donc j'ai pris mon 4x4, direction Fontainebleau. J'adore la nature. Je me suis garé dans une clairière. J'en ai profité pour vider le cendrier de la Jeep. Et je me suis enfoncé dans les bois à pied. J'ai avancé de 2 mètres, difficilement, parce que je traînais le lave-linge en panne pour le laisser dans un tas de bol. Et là, j'ai fait demi-tour parce que j'ai fait l'erreur un jour de regarder le projet Blair Witch. Et depuis branches qui s'entrelacent, je panique. Ça me fait souvent ça, les films. Depuis Les Dents de la Mer, j'ai peur des requins. Depuis Speed, j'ai peur des transports en commun. Depuis Speed 2, j'ai peur des suites. Depuis Automobile, j'ai peur du cinéma français. Bref, j'ai fui. D'autant que je craignais en plus de croiser un écureuil. Ça paraît gentil, les écureuils, mais c'est fourbe. Ça attaque quand on s'y attend pas. Des salauds, oui. Je vous explique pourquoi je dis ça, parce que vous pourriez penser que je suis déséquilibré psychologiquement.
Non.
Oui, mais pas seulement. J'ai lu des articles sur un écureuil en Californie qui attaque les gens. Il n'a pas peur, ils sont tous armés là-bas. Moi, aux États-Unis, si je dois me gratter la tête, je le fais tout doucement pour qu'on n'imagine pas que je vais sortir un gun, parce qu'il tire avant que tu aies atteint le bas de ton front. Ça se passe à San Rafael, 60 000 habitants. Un écureuil terrorise la ville. L'écureuil, vous voyez, c'est cet animal roux avec une queue touffue qui ressemble à Ed Sheeran si c'était fait friser des poils des fesses. Bon, bah, l'écureuil sur le papier, bon, n'est pas un animal effrayant. Un grizzly, tu peux dire, j'ai eu tort de m'aventurer dans cette grotte qui sentait fort le miel. Un écureuil, tu as l'impression que si tu fais boue, il s'en va. Grave erreur. Il cache son jeu, comme tous les êtres chétifs. Rachida Dati, elle va faire 44 kilos. Mais elle est capable de faire sortir 700 gauchistes d'un coup, en foutant le feu au chapiteau du Festival International du Sarouel. Toujours se méfier des petits. Les chiens, c'est souvent les Yorkshire qui t'aboient dessus. Ils ont un chouchou rose sur la tête. La moitié de leur poil a traîné dans le pipi, mais tu mets la main, ils t'emportent 4 doigts. Au Hellfest après, tu veux faire le signe de la bête. On dirait que tu demandes à la maîtresse si tu peux prendre la parole. San Rafael, Californie, USA. John, une habitante, témoigne. L'écureuil a sauté. J'ai voulu protéger mon visage, mais mon bras à tout prix, j'étais couverte de sang. Isabelle, 39 ans, l'écureuil s'est accroché à ma jambe. Il m'a mordu pendant ma balade. Parce qu'en plus, on est sur un écureuil qui ne respecte pas les temps de pause. Un dimanche matin, en pleine messe, il est capable d'arracher le nez du curé. C'est un psychopathe. Tic et tac sous acide. Déjà 5 agressions et 2 hospitalisations. Cet écureuil est un malade. Une autre femme dit, il était accroché à ma jambe, je criais, lâche-moi. Alors, ça ne sert à rien. Hein, déjà dire ça à un mec Yves qui cherche la bagarre, ça marche pas, il n'y a pas de raison que ça fonctionne avec un écureuil. Et puis, école du kung-fu, on respecte son adversaire, pas de tutoiement avant le 32e combat. Tout ça pour vous dire que la ville de San Rafael vit dans la terreur. Dès qu'il se passe un truc en ville, on pense que c'est l'écureuil. Un braquage de banque, le shérif demande, je sais pas, il avait pas de grandes oreilles par hasard, est-ce qu'il sentait la noisette? Hein, on met tout sur le dos de l'écureuil, les gangsters avant bouffent des M&M's. Des affiches pour prévenir des attaques de l'écureuil, c'est véridique, ont même été posées. Bref, c'est marrant de voir ces grands couillons d'Américains surjouer la virilité et tirer à la Kalachnikov sur des boîtes de soupe en hurlant. Et là, un écureuil, tout leur système est par terre. D'où mon idée.
pour clore la guerre en Ukraine, que Trump ait son Nobel de la paix et s'apaise enfin. On attrape l'écureuil à l'issue d'une battue de 700 000 hommes. On le met dans une fronde géante construite par Zelensky avec ses vieux pulls. Et on le projette en zone russe. L'écureuil repère Poutine, homme qui en plus ressemble fort à une noisette. Le débat, terminé. Parce que les missiles, les drones, ça a échoué. Envoyons l'écureuil. Et alors, la télé américaine a quand même demandé à des spécialistes des écureuils que faire en cas d'attaque. Hein, on en est là. Bientôt, il y aura un guide de survie au cas où une coccinelle vous regarde mal ou si un raton laveur vous plaque au sol. Alors, d'abord, pourquoi l'écureuil attaque? Hein? Eh ben, parce qu'il a faim. Il a faim. Voilà. Son habitat se restreint à cause de l'homme. Sa possibilité de se nourrir aussi. C'est pour ça que la faune sauvage, à chaque fois, s'aventure en ville. Je le sais, hier à dîner, chez moi, on était 7, dont 4 sangliers. J'avais fait du rôti de porc. Je vous raconte pas le malaise. Un marcassin a cru que c'était son oncle naturiste que j'avais fait cuire. Donc, les écureuils associent les humains à la nourriture. Ça fait pareil sur la côte avec les goélands. Hein, 5 ans que j'ai pas bouffé une gaufre. Il y a toujours un qui me l'arrache des mains avant. Le même, j'ai fini par comprendre qu'il préférait celle au chocolat blanc avec 2 toppings. Donc, je prends directement celle-là. Que faire si vous vous retrouvez face à un écureuil comme celui de San Rafael? Je vous lis le conseil d'une spécialiste, puisqu'on a des auditeurs des Landes qui sont peut-être actuellement cernés par des écureuils qui vont crever. Il faut rester immobile et calme et ne pas avoir de nourriture proche de vous. Voilà, si vous revenez du Carrefour Market, vous prenez vos sacs et vous les jetez le plus loin possible. Pendant que les écureuils découpent vos conserves avec les dents, fuyez et venez habiter Paris. Ici, on n'a que des rats qui sont très sympas. Il n'y a pas une attaque. Même Oldelaf qui nous apporte du chocolat au bureau, c'est lui la personne gentille de l'équipe. Eh ben, il n'arrive pas de couvert de sang à la radio. Donc, méfiez-vous en tout cas des écureuils. Merci.
Merci. Tony Passero.
Sur scène pour une exceptionnelle à Paris le 16 octobre au théâtre de la Gaîté Rive Gauche.
La série des disparus de la gare est sur Disney+ à partir de la semaine prochaine, le 8 octobre pour être précis. D'autres événements, Léa.
On cherche un film qui ressort au cinéma 42 ans après sa sortie. Un film à la mémoire de Louis de Funès, parce qu'il devait y incarner un rôle.
Mais il n'est pas dedans.
Il n'est pas dedans, non, il est mort juste avant. La critique à sa sortie en 1983 est désastreuse sur ce film. Pourtant, ce film a enregistré plus de 4 millions d'entrées au cinéma. C'est des scores qui font rêver. Aujourd'hui aussi, c'est un film dans le film, pour vous donner quelques indices, puisqu'il se termine par une sorte de débat télévisé qui tourne à la fin.
Ouais, Papy.
Ouais, bravo.
Il devait y avoir Louis de Funès en Papy.
Alors, il devait jouer soit Papy, soit le demi-frère d'Hitler.
D'accord.
Voilà, okay. C'était ça la distribution.
Ah, mais... Hitler où?
Petit Hitler. Il devait donc rejoindre le casting avec Michel Galabru. Ouais. Voilà, c'est ça. Martin Lamotte, Jean Carmé. Quand je vois le casting quand même de ce film, Christian Clavier, Jacques Villeret, Roger Carrel, Gérard Jugnot, Dominique Lavanant. Ouais, il y avait une sorte
mais
de casting.
Mais toi, non, Plotot n'a pas changé.
Exactement.
Ouais, je vais faire ça.
Alors, je voulais donner ça comme indice et je me suis dit, personne ne va se souvenir de Roulion dans
si.
Le film.
Ah,
bon, bah, j'aurais dû. Et film de Jean-Marie Poiré. Voilà.
Donc, il devait chanter. Donc, Louis de Funès devait chanter avec Jacqueline Maillan.
Sans doute, Il y avait 2 rôles, en tout cas, possibles, mais ça n'a pas pu se faire. Papy fait de la résistance qui sort dans 300 salles. Si vous voulez le voir au mois d'octobre, une version restaurée qui est proposée, l'occasion de voir sur grand écran un film qu'on a vu qu'à la
culte.
Télévision, puisqu'on était trop petits pour le voir à sa sortie, majoritairement ou pas.
On
n'a pas toujours le temps d'aller en salle. Voilà. C'est surtout ça.
On était à l'avant-première, nous.
Est-ce qu'il y a un film comme ça qui a bercé votre enfance dans cette dimension? Parce que c'est un film, on en rit de Papy fait de la résistance, mais c'est aussi un film qui a marqué un tournant dans la façon dont on représentait la résistance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la résistance, c'était des films hyper sérieux, hyper sombres, et c'est comme ça qu'on donnait à comprendre la résistance aux jeunes gens.
Mais
83, 80, c'est à quelle année la Grande Vadrouille?
C'était avant.
C'était un petit peu avant, mais là c'est une comédie sur la résistance, pardon, sur la collaboration, sur les trucs. On n'est pas dans la Grande Vadrouille, on n'est pas dans de la collaboration, on est vraiment dans de l'aventure, quoi.
Ah bah. Ok. Bah,
il y a quand même un peu des histoires
peu
de résistance,
oui,
et
ça,
tout
oui.
ça.
De résistance, mais pas de collaboration passée à l'humour, quoi, totalement.
Moi, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que tu veux dire.
Parce que tu veux qu'elle arrête, c'est ça.
Ouais.
Non.
Ça, c'est toi qui veux.
Ouais. Voilà.
Est-ce que vous avez un film comme ça de comique qui a bercé votre enfance, si vous avez un souvenir?
Massacre à la tronçonneuse.
Projet Blair Witch, comme disait Tanguy.
Moi, j'ai revu il n'y a pas longtemps Top Secret.
C'est quoi, c'est quoi,
avec Patrick Swayze, ouais. C'est quand même...
Ça passe super bien vieilli.
Oh si, il y a des vannes toutes les 4 secondes, c'est pas drôle.
C'est une comédie avec Patrick Swayze.
C'est hilarant.
C'est Val Kilmer, non?
Val Kilmer, mais ils sont blonds, c'est pour ça. Je suis pas hyper forte en blond.
Ah oui.
Et c'est... Merci, c'est Val Kilmer. C'est dément. Enfin, moi, je trouve qu'il y a peut-être des trucs de rythme. Enfin, il y a pire. Il y a plein de films qui n'ont pas très bien vieilli.
Oui, c'est vrai.
Moi, c'était Le Grinch.
Oh waouh, c'est vrai que là, oui, c'est un truc
Grinch,
de génération.
C'est quand même Jim Carrey, c'est quand même le meilleur acteur du monde.
C'est pas Patrick Swayze, parce que vert, ils sont tous les deux verts.
Autre question, bientôt la saison des prix littéraires et alors que les deuxièmes listes viennent d'être dévoilées pour un certain nombre de prix, j'attire votre attention sur un prix littéraire qui devrait tous vous plaire. C'est la 4e édition de ce prix littéraire. Il vient d'être remis à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son roman Je voulais vivre. Dans la catégorie essai, le lauréat c'est Rudy Ricciotti, l'architecte marseillais pour Insoumission, et une mention spéciale a été attribuée à ce prix que je vais vous demander de trouver, le principe et le concept de ce prix. Mention spéciale pour Clamsé à Tataouine de Raphaël Quenard. D'après vous, qu'est-ce que ce prix vient saluer?
Consommation de narcotiques.
Je vous ai donné tous les éléments pour trouver.
Autobiographie.
Non, pas l'humour. Autobiographie.
L'audace.
Non plus, pas l'audace, pas l'humour. Je voulais vivre. Talent. Insoumission ou Clamsé à Tataouine. C'est un prix littéraire.
Le thème?
Pas non. Le thème, l'argot. Qui va plaire aux fainéants, je pense.
L'argot un peu.
La première fois? Le hasard?
Non.
Le
plus rapide à lire.
Le plus court?
Non plus.
Le livre écrit sur un iPhone?
Non plus.
Les vacances imaginaires?
Non plus. C'est un...
Moins de 100 pages?
Non plus. C'est pas la taille?
Il paraît.
C'est pour t'assurer que je dis ça.
Merci,
je vous le donne.
Allez, ouais.
C'est le prix du titre. Tout simplement. Le plus beau titre, Je voulais vivre, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Insoumission de Rudy Ricciotti pour l'essai. Et puis la mention spéciale pour Clamsé à Tataouine de Raphaël Quenard. Alors attendez, faut rentrer dans le détail. Le jury qui se réunit pour déterminer qui est le gagnant.
Ne veut pas lire le reste.
Non, va lire le reste titre. Parce que dans un premier temps, c'est la beauté du titre. Et ensuite, c'est la cohérence de l'œuvre en lien avec ce titre qui est quand même un peu étudié. Mais il faut un beau titre parce que finalement aussi dans une librairie, quand on s'approche d'un livre, le titre joue pour beaucoup. Il y a la couverture bien entendu, il y a éventuellement le nom de l'auteur si on le connaît un petit peu ou on en a entendu parler, mais la beauté du titre. Et je salue ce Je voulais vivre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Qu'est-ce qui vous fait acheter un livre? Quels sont les critères qui vous font acheter un livre?
À part le prix.
Non mais par exemple ça me fait penser au livre aussi de Tesson qui s'appelait S'abandonner à vivre. J'aime pas lire les résumés comme voir
les quatrièmes de couverture.
Les quatrièmes de couverture ou comme voir les bandes annonces des films. J'aime bien y aller totalement neuf de tout. Et S'abandonner à vivre, je l'ai tout de suite acheté. Je trouve ça trop beau.
Et vous l'avez lu?
Et je l'ai lu.
Ouais,
et j'aime beaucoup Tesson.
Ouais. Et vous Camille, qu'est-ce qui vous fait? Ça peut être quelqu'un qui vous donne un conseil. Ça peut être une libraire. Ça peut être un titre. Ça peut être qu'est-ce qui pourrait vous entraîner à acheter un livre en particulier?
J'aime bien les titres énigmatique. De la même façon, j'avais acheté en librairie par hasard, sans me faire conseiller, Le vieux juif blonde d'Amanda Sterz, que j'avais fini par
jouer.
Qui a un monologue qui avait été joué par Mélanie Thierry et que j'ai joué aussi au théâtre pendant quelques mois.
Le titre vous a intrigué au point d'acheter le livre?
Le vieux juif blonde, il y a vraiment quelque chose. On se dit,
une faute de français, pardon.
Exactement. Tu te dis évidemment que c'est volontaire, tu t'en doutes parce que c'est
ou
alors on a un petit problème de dyslexie. Mais non.
Il a beaucoup diminué à Amanda Sterz. Hein. Avant, elle était au top, mais là.
Vieille sorcière borgne. Vieille sorcière blonde borgne. C'est
pas
le
mal.
Personnage que vous jouez. C'est
beau
ça.
Titre.
Dans Nero.
Oui, c'est ça.
Qui sortira également le 8 octobre. Décidément, c'est une journée chargée le 8 octobre pour vous.
Ah
ça sera sur Netflix en face de Disney. Ils sont d'accord les deux pour le faire. Vous tournez également dans Le Rouge et le Noir de Gaël Morel. Vous êtes, c'est fini ou vous êtes en train de le tourner?
Il me reste quelques jours.
Et vous êtes qui dans ce Rouge et le Noir?
Je suis Mathilde Lamolle.
Ah là 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 là.
Ouais, très beau rôle.
Là 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 là.
Il y a Victor.
J'adore. Mais La Peste.
Ouais.
Bien sûr.
La Peste.
Bien sûr.
Enfin, L'Indépendante. Je
oui,
préfère
L'Indépendante,
ça.
Mais Peste quand même un peu. C'est pas Madame de Rênal.
Oh, enfin, Madame de Rénal, à la fin, je rappelle que quand même, c'est elle qui fait la traîtresse.
Calmez-vous toutes les deux, n'allez pas vous battre.
Mais c'est vous avez c'est son amour.
Vous avez monté votre boîte de prod aussi, pour être indépendante
Parce que
le métier d'acteur, c'est toujours attendre que son téléphone sonne et être à disposition tout le temps est un peu fatigant. Et donc, j'avais envie aussi d'être moteur et de créer un collectif. En fait, j'avais envie d'être avec des gens créatifs que j'aime et que je respecte.
Tazar, et... c'est le nom que vous avez choisi.
Tazar, voilà. Pourquoi ? Bah, réfléchissez.
Ça va.
Je fais comme Leïla, je fais
mais
pas.
Oui, c'est ça. Ah oui.
Et voilà.
Et voilà. C'est un heureux Tazar.
Très sincèrement, j'avais pas trop d'inspiration, je trouvais ça juste graphique et je me suis dit.
C'est la journée des Scuds. Elle envoie des Scuds. Ok, très bien. Mélanie, vous avez tourné dans Compostelle qui sortira prochainement en salle.
On vous félicite pas.
Marche et invente ta vie, ça aussi c'est un joli titre de livre. Marche oui. et invente ta vie.
Et c'est surtout, ça met en lumière une très belle association qui s'appelle Le Seuil, qui fait la route de Compostelle avec des jeunes qui sont en réinsertion.
Au côté d'Alexandra Lamy.
Exactement.
Des excuses à présenter.
Désolé pour Camille Razade qui ce matin pensait bêtement rencontrer Nagui, l'animateur aux dents très blanches de Taratata. Nagui qui ce matin ne connaissait aucun titre choisi par Camille. Quel escroc, Nagui, mon petit Fennec casanier. Il n'y a pas que Sardou en musique, contrairement
c'est
à ce
vrai,
que tu crois.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouvre-toi un peu. Désolé pour Clint Eastwood qui a été choqué, humilié, malmené, tambouriné par Camille Razat, à qui il avait filé des jours supplémentaires pour, je cite Camille, son plus mauvais film.
Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'elle ait eu plus de jours
Elle est comme ça, la catoche. Elle m'a par ailleurs confié que cette émission, celle de ce matin, était à chier. Décidément, vous êtes une invitée à problème, Camille. Heureusement, vous avez Mélanie. Vous avez été vous parfaite. Désolé pour Stromae qui m'a appelé en larmes à la faute. Pour me dire qu'il n'avait jamais connu un tel sentiment en découvrant la reprise de Papa Outé, Parole de Lave. Un mélange de colère, de désespoir, de haine et d'abattement. Alors, pour tous ceux qui ont loupé ce moment de gloire artistique...
Ah ouais.
Merci Daniel, merci Mélanie Douté, merci Camille Raza.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe. Les Disparus de la Gare, donc sur Disney Plus à partir du 8 octobre. Passez une belle journée. Demain, c'est Elsa Zieberstein qui sera notre invitée. À demain, merci.
Merci.